Bienvenue dans La mort, tout un art. Je suis Lucille Milliard, réalisatrice. Tous les mois, je m'entretiens avec des artistes qui traitent du sujet de la mort et avec des professionnels du funéraire qui font de leur métier tout un art. J'ai choisi, avec ce projet, de mettre en lumière les initiatives remarquables, locales et humanistes en matière de funéraire. C'est parti. La mort, tout un art. L'art de vivre des funérailles en musique avec Élie Guillou. Bonjour Élie.
Bonjour.
Élie, vous êtes conteur, musicien, auteur et officiant funéraire. Et pouvez-vous déjà préciser ces mots musicien et officiant funéraire ?
En fait, c'est deux mots qui ne sont pas arrivés au même moment dans ma vie, puisque moi, je suis musicien depuis toujours. C'est le premier métier que j'ai fait, quoi, faire des concerts et pratiquer la musique. Et le fait d'associer la musique aux funérailles est arrivé de manière, on va dire, systématique depuis 2022 à peu près. Mais j'avais déjà eu l'occasion de le faire auparavant. Donc aujourd'hui, j'officie, c'est-à-dire que je suis maître de cérémonie, on dit, pour des cérémonies funéraires. Donc j'aide les familles à les concevoir et puis je les orchestre un petit peu le moment venu. En tout cas, je suis le passe-plat, je peux dire ça, de ces cérémonies. C'est-à-dire qu'on a construit en amont une forme et puis après, le moment venu, il suffit, entre guillemets, de veiller à ce que ça se passe de manière simple et vivante, quoi. Et puis là-dedans, parfois, j'interviens en tant que musicien, soit alors que je suis officiant, soit au sein d'un collectif qui s'appelle Chant Funérailles, et qui est un collectif de musiciens et de musiciennes qui se font cette spécialité, on pourrait dire, de jouer lors des cérémonies, quoi.
Alors racontez-nous justement, vous êtes le cofondateur du collectif Chant Funérailles. C'est quoi le point de départ de ce collectif ? C'est quoi l'envie, la nécessité ? Ça part d'où ce besoin ?
En fait, il y a plein de raisons qui s'enchevêtrent à cet endroit-là, mais que j'ai appris à décoder avec le temps. Sur le moment où j'ai eu cette idée, c'était un peu sur le mode d'une fulgurance, d'une évidence. C'est-à-dire que la conclusion arrive avant le raisonnement, et je me dis, il faut qu'on fasse ça. Je me le dis pour tout un tas de raisons, mais quelque chose qui n'est pas anecdotique, c'est que le moment où je me fais cette réflexion, je suis à Dakar. Et je viens d'assister à 3 jours de réflexion dans un événement qui s'appelle les Ateliers de la Pensée. Et j'entends sentir, penser, expérimenter le monde depuis l'Afrique de l'Ouest. Et le rapport aux morts, à la mort, est très différent. Et il infuse toutes les pensées que j'ai entendues depuis 3 jours qui ne parlent jamais de ça. C'est-à-dire que ça parle, je sais pas quoi, d'écologie décoloniale ou bien de militantisme au porte-à-porte dans une ville polluée par une usine de sel ou bien, je sais pas, de la communication touristique des îles du Cap-Vert, enfin, de plein de choses différentes, de danse. Mais c'est jamais le cœur du sujet. Par contre, je constate que les gens convoquent leur mort de manière très simple et que ça fait partie des archives à leur disposition. Au même titre que un savoir universitaire, par exemple. Et c'est pas des morts, ça peut être des morts illustres, je sais pas, Aimé Césaire dans ce cadre-là, mais ça peut être ma grand-mère. Et ça peut être des phrases comme j'ai appris à danser très tôt puisque je suis la réincarnation de ma grand-mère. Des phrases qui se glissent comme ça dans le discours et qui sont pas le cœur de la parole, mais j'ai en tout cas vécu à quel point ces archives-là mises à disposition comme des sources étaient vivifiantes. Donc était un facteur d'intensification, quoi, de nos vies à nous vivants. Et je pense que c'est de là qu'a été ça a été le ferment de l'idée. Et puis après, il y a tout un tas de choses que j'ai compris par la suite, quoi.
Alors après ces 3 jours à Dakar, qu'est-ce qu'il se passe quand vous rentrez en France et cette idée ?
En fait, je propose à une amie qui s'appelle Chloé Bréau, qui est montreuilloise comme moi, de participer à ce projet. Je lui propose qu'à elle, au début, j'ai pas l'idée d'un collectif, mais je pense à elle pour une raison simple, parce que elle a une manière de chanter particulière, outre qu'elle a une qualité technique très poussée, mais c'est pas tant ça, parce qu'il y a plein de gens qui ont cette qualité-là, mais elle a en plus une qualité de présence un savoir-être, je pourrais dire, qui la rendait à mes yeux la personne parfaite pour être à ce moment-là. C'est-à-dire qu'elle est le canal de quelque chose. Elle n'est pas en représentation quand elle chante. Elle est en transmission. Donc c'est pas la même attitude que certains artistes qui peuvent être excellents mais qui proposent leur monde. Elle est comme une passeuse de monde, et d'ailleurs elle chante beaucoup de fado, de musique lusophone, et donc c'est des qualités qu'on retrouve beaucoup chez les musiciens traditionnels et les musiciennes traditionnelles qui transmettent un répertoire. Et il y a ce truc d'être vecteur plus que auteur ou autrice de quelque chose.
D'ailleurs, vous parlez de répertoire, et c'est ce répertoire-là, vous le constituez quotidiennement. Enfin, j'ai l'impression que ça fait partie de votre vie. Vous en avez d'ailleurs fait toute une page sur le site du collectif Chant Funérailles. On peut aller écouter ce répertoire, on peut même les voir, parce que vous avez mis en vidéo. Dans plusieurs épisodes de La Mort, tout un art, j'ai pu piocher dans ce répertoire. Donc un grand merci de
vive
voix. J'ai demandé en amont quand même.
J'ai été taguée.
Et en fait, c'était drôle d'aller... Enfin drôle, je ne sais pas si c'est le mot, mais d'aller écouter, de choisir telle musique pour tel épisode. Et c'était un peu l'intuition plus que de « Ah bah, il y a tel thème qui colle, allez, hop, ça s'imbrique et non. » Et vous parlez de passeurs, passeuses, il y a aussi voilà, ces énergies-là. Et c'était une belle expérience justement d'aller choisir un morceau dans ce répertoire. Comment justement vous l'alimentez, ce répertoire ?
En fait, il y a plusieurs manières. Moi, j'écoute sans arrêt des morceaux avec cette idée en tête maintenant. C'est-à-dire que quand j'écoute un morceau, maintenant que je suis câblé sur ce qu'est-ce que ça raconte, cette question que je pourrais formuler, qu'est-ce que ça raconte de cette expérience de la séparation, ou de ce temps de la fin, ou du temps du deuil, ou bien de... Du coup, j'écoute toutes les chansons sur un mode parabolique. Si elle était une parabole de ça, alors qu'elle parle complètement d'autre chose, qu'est-ce que cette chanson raconterait ou nous dirait de nous, etc. etc. Et en fait, ce que j'ai compris en le pratiquant, c'est que les funérailles, c'est comme une caisse de résonance particulière. C'est comme un filtre Instagram. Il y a certaines couleurs qui ressortent plus que d'autres dans certaines chansons. Donc quand on chante une chanson dans ce contexte, certains mots, par exemple, prennent une importance démesurée. Et quand je vais à des funérailles, souvent à Paris, je me glisse dans les cortèges au Père Lachaise, au hasard, pour voir ce que les gens font, comment les gens s'approprient ce moment, s'ils se l'approprient, s'ils ne se l'approprient pas, quel type de cérémonie ça fait. Et je prête évidemment une attention particulière à la musique. Qu'est-ce que les gens choisissent et pourquoi ? Il y a évidemment un axe qui est « il ou elle aimait ça », puisque c'est lui ou elle qu'on célèbre, ça nous convoque des moments... Donc ça convoque la personne, ça c'est un axe qui est à peu près systématique, mais il y en a un autre. Et je trouve que les gens choisissent très souvent des chansons dont le thème est très frontalement la mort, la séparation. C'est pas du tout sur un mode avec des pincettes, on va éviter le sujet, non, c'est très fréquent que les gens aillent dans le mille. Et parfois sur un mot de la chanson, « Il est libre Max », par exemple, j'ai entendu souvent. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce thème de la liberté qui revient très très souvent dans notre manière qu'on a de se raconter de qu'est-ce que c'est mourir, qu'est-ce que c'est passer, etc. Et puis après, il y a le côté des interprètes qui constitue le collectif aussi. Et la question, c'est de dire, mais qu'est-ce que vous avez envie de chanter ? Donc chaque membre du collectif propose des chants, et des chants souvent qui vont bien avec leur voix. Parce qu'un interprète, c'est une certaine énergie, c'est un certain corps, c'est une certaine voix. Et donc, il y a des agencements plus heureux. Si moi, avec ma voix, là, on me demande de chanter du Johnny, ça m'est arrivé, j'ai dit, vous allez être déçus. Ou bien, on m'a demandé de chanter, une famille qu'on accompagnait m'avait demandé de chanter du Paolo Conte, qui a une voix de crooner, comme ça. Je leur ai dit, écoutez, si c'est moi le casting, ça ne va pas le faire, quoi. Par contre, le petit cheval de Brassens le fait très bien. Et donc, en croisant ça, en fait, on arrive à un répertoire qui est assez imprévu. Des choses qui s'agrègent comme ça sans plan d'ensemble. C'est juste, on se dit, tiens, ça pourrait le faire, est-ce que ça apporte quelque chose ? Oui, ben on y va. Et après on le propose sur le site, et parfois quand on sent que c'est possible avec les familles, on sent que ça raconte quelque chose qui rentre en sympathie avec la vie qu'on nous raconte, on propose ces chants-là, quoi.
Mais justement, concrètement, comment vous êtes en relation avec les familles en tant qu'artiste ? interprète ?
Il y a deux canaux. Soit c'est maintenant il y en a trois, puisqu'on a un petit peu étoffé la partie réseaux sociaux, donc on a entre guillemets un endroit où on peut se présenter. Mais quand on a inauguré le collectif, il n'y avait rien pour nous présenter, on avait juste une déclaration d'intention. Donc c'est des amis d'amis et les pompes funèbres qui commencent à nous appeler à Paris. Ce à quoi je ne m'attendais pas tellement, puisque j'ai constaté en fait que bien des pompes funèbres sont accaparées par les travaux commerciaux et administratifs et donc n'ont pas de temps à consacrer vraiment à la mise en forme de la cérémonie. Mais il arrive que des familles demandent « Est-ce que vous connaissez des musiciennes ou des musiciens ?» Et donc là, dans ce cas-là, s'ils ont le flyer dans le tiroir, ils nous appellent quoi, éventuellement.
Et en quoi est-ce important pour vous qu'il y ait cette présence de la musique pendant des funérailles ?
C'est pas tant que c'est important pour moi, même si pour moi, dans ma vie, c'est important la musique, donc pour mes funérailles, ça serait important. Mais par contre, c'était le point de contact que moi j'avais pour travailler à l'endroit de... notre rapport à la mort, notre rapport aux morts. Et je pense, je réfléchis a posteriori, sur le moment j'ai eu cet élan et puis j'y suis allé sans trop me poser de questions parce que je savais intuitivement pour l'avoir vécu qu'il y avait tant de funérailles qui étaient sous-investies ou dont on se sentait dépossédé en tant qu'endeuillé, que je savais que de toute façon tout ce qui venait réenrichir et re-questionner ce moment-là était bienvenu. Donc c'était ça le point de départ. De toute façon, c'est bienvenu, quoi. Et puis après, nous appellerons les gens que ça branche. On ne va pas aller imposer ça, quoi. Mais en réfléchissant un peu, j'ai quand même compris que aujourd'hui, le rituel contemporain laïque, on va dire, se passe rarement sans musique. La musique est souvent diffusée, puisque tout le monde n'a pas des interprètes disponibles dans leur entourage. Et ceux qui en ont n'osent pas demander, très souvent. Parce qu'on se dit, mais oh, ça va sans doute l'encombrer, l'ennuyer, etc. En fait, non. Moi, si j'avais un conseil à donner, c'est si vous connaissez des musiciennes et des musiciens dans votre entourage, posez-leur la question. Si jamais ça arrivait, tu serais pour ou... Enfin, ça t'intéresserait ou pas ? Et on vous répondra. Mais il y a des gens que ça effraie ou que ça réveille des douleurs, donc voilà. Mais la plupart des musiciennes et des musiciens à qui j'en ai parlé m'ont dit, super, ça donne du sens à ma pratique. Parce que les musiciennes et les musiciens sont pris dans des circuits professionnels, des logiques de production, des logiques économiques conditionnées par le régime d'intermittent du spectacle, des canaux de diffusion précis qui sont très engorgés, qui tendent à l'être de plus en plus. Et donc, il y a aussi un re-questionnement qu'on peut avoir, nous, artistes, sur notre place en fait, dans le corps social. Et moi, je sais que le moment du Covid a été très instructif. Le moment où les artistes ont été... dit non essentiel. Les artistes se sont beaucoup insurgés de ça, mais le reste du corps social, pas trop. Et donc, je me suis dit, tiens, mais d'où vient cette déliaison ? Pourquoi nous, on est persuadés d'être essentiels, et pour les gens, non. C'est pas de dire on a raison, ça, c'est juste dire, bon, ben, il y a peut-être quelque chose dans le dialogue qui s'est affaibli. Comment le retisser, ce dialogue-là ? Je me suis dit, peut-être que l'endroit des funérailles, au moment où je ne sais plus quoi dire, je ne sais plus quoi penser, je ne sais plus respirer, parce qu'il y a une question là-dessus aussi, alors à ce moment-là, un artiste qui a un savoir-faire arrive et prend le relais de ce que moi, je ne suis plus capable d'articuler. Et là, il me semble que le fait d'avoir un savoir mettre en forme des émotions, des idées, des affects, etc., a un sens.
Vous êtes à différents endroits, soit côté collectif Chants Funérailles ou les familles via les réseaux sociaux, le web ou les pompes funèbres vous appellent en tant qu'artiste interprète et aussi donc en tant qu'officiant funéraire quand vous êtes en train d'écrire l'hommage avec la famille, là à un moment donné vous pouvez vous aussi proposer votre prestation, intervention musicale.
Oui, c'est pas prestation dans ce cadre-là, parce que c'est... En fait, dans ce cadre-là, à chaque fois, moi, quand j'officie, je mentionne aux familles que je peux, moi, chanter ou jouer de la musique. Et je peux les faire chanter aussi. C'est aussi ça. S'ils veulent chanter, je peux les accompagner. Je peux diriger un chant éventuellement. Et donc, je le mentionne, j'appuie pas dessus. Parce que le truc qui serait... obscène presque serait de vouloir transformer ce moment-là en performance, qui est l'inverse. Donc c'est comment à un moment le fait de chanter, d'écouter chanter, trouve un sens par rapport à ce récit-là ou à ce moment-là. Mais ce que j'ai constaté quand même, c'est que souvent c'est un outil que les gens s'approprient. C'est-à-dire, ah vous chantez super, est-ce qu'on pourrait faire ça quoi? Et on trouve souvent un terrain d'entente sur le répertoire, sur quelque chose que moi je peux chanter. Mais la dernière cérémonie que j'ai officiée, j'ai pas chanté, j'ai juste joué. Et les gens ont chanté, ils avaient amené leurs textes et tout ça, et tout le monde a chanté en chœur. Et moi, juste la guitare rendait ça possible en fait, et donnait l'audace à la famille de le faire. Et il y a aussi une autre chose qui s'est passée, c'est de conseiller quelqu'un qui avait envie de chanter mais causait pas. Parce que son mari lui avait dit ah, on pourrait la faire à deux voix, puis à deux voix c'était trop technique pour elle. Et elle avait très envie de chanter, et c'était pas juste un envie, c'est juste que cette chanson-là convoquait sa maman. Donc c'était les deux filles pour qui cette chanson avait une histoire, parce que leur maman chantait ça quand elles étaient petites. Leur maman a rencontré leur père avec cette chanson-là, et dans la fin de vie de leur maman, elle lui chantait ça. Donc il y a eu, dans l'entretien, il s'est passé deux heures où on est allé et venu entre différentes propositions. Et puis à chaque fois, on tournait un peu autour du pot de cette chanson. Et le moment où j'ai dit, mais il me semble que ce serait important pour vous, non, de la chanter, là, vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le rendez-vous. Et où elle m'a dit, oui, oui, oui. Et donc, j'ai dit, mais ce qu'on peut faire, c'est très simple. On va la chanter à l'unisson. Vous, votre sœur, votre mari et moi. Je vais apprendre cette chanson, qui est une chanson médiévale, Rossignol et Dubois. Et on va la chanter à l'unisson, simplement. Vous allez me la chanter, je vais repérer la tonalité. Donc là, rentre le savoir-faire musical pour assurer le coup. Et juste, en fait, dire, si vous pleurez, nous, on chante. Si vous pleurez en chantant, parce qu'elle avait peur de ça. Mmh. C'est pas un concours, on n'est pas à The Voice. Le but, c'est que vous la chantiez parce que vous allez être fiers de traverser ce moment-là dans cette chanson-là. Quoi. Et ça s'est très bien passé. On a fait ça comme ça. Il y a d'autres utilisations du collectif que je découvre par l'intelligence des gens qui s'en servent. Il y a des gens qui diffusent nos morceaux maintenant dans les cérémonies. J'ai eu des retours de ça.
D'accord.
Donc ça, c'est un très bel... comment dire, c'est une belle réponse, quoi. Mmh. Et puis, il y a aussi une famille mais qui m'a contacté en disant « J'aimerais qu'on chante quelque chose. On est à Marseille, on ne peut pas vous faire venir. Mais on a, je ne sais pas quoi. » Donc, bah, c'est toujours la même question. De toute façon, c'est « Racontez-moi. » Donc, qui on célèbre, en fait ? C'est qui, elle, c'était qui, vous, vous êtes qui, vous allez être combien ? Et à partir du récit, on cherche. Et là, j'ai envoyé une dizaine de propositions par rapport au récit. Il me semble que ça peut être là-dedans, mais la question des goûts est un peu délicate. J'aime, j'aime pas, ça, on ne saura jamais. Donc, il faut envoyer un avantage assez large, quoi. Mm-hmm. Et ils ont choisi deux chants là-dedans. Et ils nous ont envoyé une vidéo, ils étaient sur une colline. Elle jouait un peu d'accordéon et ils chantaient tous en chœur. Une chanson italienne que Elena Morag, qui est une des membres du collectif, avait amenée dans la base de données un peu quoi.
Qui s'appelle comment ?
Scura Mai.
Que l'on retrouve.
Elle n'est pas sur le site, parce que sur le site, on a juste 21 titres de ce qu'on a pu nous tourner en deux jours dans une maison l'été dernier. Quoi. On s'est réunis et on va essayer de refaire la même chose cette année. Mais on va essayer d'enrichir le répertoire année après année. Mais le but, c'est un peu presque un autre axe, c'est de dire on ramène la question de la mort au centre du débat, quoi, juste en disant mais ces chansons-là, elles nous semblent bien pour un groupe qui s'appelle Chants Funérailles, quoi, un collectif comme ça. C'est juste ça. Après, on peut s'en servir pour les cérémonies ou pas. Mais c'est presque. Ça peut être complètement décorrélé, quoi.
Et là, quand. Sur cet hommage avec ses deux sœurs, le mari en hommage à leur maman. Il se passe quoi pendant la cérémonie ?
Au moment du chant ?
Au moment du chant. Et
je
après
pense... Moi, ce que je constate, c'est que les chansons, c'est comme si une chanson, elle tenait pas tout à fait toute seule et que c'est sa grande force, quoi. Une chanson, c'est trois fois rien, c'est une petite mélodie, des paroles. Parfois, il y a une orchestration incroyable, parfois pas. Et donc, elle se greffe à d'autres choses et à des moments, beaucoup. Enfin, les chansons convoquent des moments de manière très puissante. Moi, quand j'entends certaines chansons, je sais que j'étais dans la voiture, sur telle autoroute ou telle route de campagne, telle année, etc. Et je pense que pour beaucoup de monde, les chansons, elles ont ce pouvoir-là, quoi, de réminiscence un peu. Et donc, ce que moi, je pourrais dire dans ce cadre-là, c'est que, d'une part, elles ont pris plaisir à chanter dans un moment qui était un moment qu'elles appréhendaient. Et ça c'est devenu un moment de plaisir, ce qui n'est pas rien. Et puis, il y a aussi qu'il s'est ajouté un récit à la longue liste des récits qu'elles avaient avec ce chant. Et donc, avec une petite chanson qui dure même pas 2 minutes, elles convoquent quelque chose qui traverse toute la vie de leur mère, et donc la leur, depuis leur enfance jusqu'à la séparation. Et ça, je trouve ça très puissant. Comme une chanson peut faire ça, une poupée russe de moment, là, qui est cachée dans 4 notes et 2 mots qui parlent d'un rossignol et d'un amant qui ne sait pas comment chanter. Enfin, voilà. Donc parfois, là, les paroles n'étaient pas en lien avec le moment, mais c'était vraiment lié à leur maman, quoi. Longtemps avant, en fait, de penser à cette histoire de collectif et d'avoir l'idée consciente de travailler sur ce temps de la fin, là, des funérailles, j'étais, pendant 3 ans, j'ai un peu inventé une pratique que j'ai appelée chanteur public. L'idée, c'était de dire, je vais arrêter d'écrire des chansons pour moi et je vais écrire des chansons sur mesure pour des demandes qui me seront faites par des individus qui ont besoin d'un chant. La seule contrainte, c'est d'avoir vraiment besoin d'un chant. Et donc, je faisais soit des fois, je faisais des portraits, des déclarations d'amour, des au revoir. Et à 2 reprises, on m'a demandé d'écrire le portrait d'une personne en fin de vie. Un homme de 70 ans qui était lié à la chanson très fortement, et puis une femme de 27 ans qui avait un cancer. Et là, c'était une autre paire de manches, puisque je devais écrire le portrait. Et donc, potentiellement, le dernier portrait. Pour l'homme, j'ai dû le chanter devant lui et sa famille et ses amis lors de son dernier anniversaire. Il découvrait la chanson sur ce moment-là. Et puis, j'ai su qu'il avait après beaucoup écouté la chanson pendant sa fin de vie. Et puis après, on m'a demandé de la chanter au cimetière. Et l'autre femme, j'ai envoyé la chanson terminée la nuit où elle est morte. Donc, elle ne l'a pas entendue. Et comme c'était une femme d'origine russe, plus grande partie du rituel, elle s'est passée en Russie. Ils ont diffusé la chanson en Russie, ça je sais, pendant les funérailles. Mais elle a servi un peu de totem ou de rituel à ses amis qui, eux, sont restés en France. Et ils ont organisé une journée de commémoration, mais qui était presque comme une deuxième cérémonie de séparation, dans une forêt où le rituel était très simple. Ils avaient planté un bouleau de Russie dans une forêt où elle aimait beaucoup aller, et ils m'ont demandé de chanter la chanson. Et là, c'était en 2015 ou 2014, je crois. 2014. Et donc, c'était il y a 10 ans. Et j'ai chanté la chanson et il y a eu un silence après. Les gens étaient vraiment en recueillement dans cette forêt. Et moi, je ne savais plus trop quoi faire de moi une fois que j'avais chanté. Bon, les gens, évidemment, applaudissent pas. Et c'était la deuxième fois que je traversais ça. Mais donc, j'ai pris ma guitare et je suis parti, quoi. Je suis allé me balader et je me suis senti étrangement à ma place à ce moment-là, et c'est ce que j'ai reconvoqué à Dakar quand j'ai eu l'idée de ce collectif. Tout de suite, ça a réactivé ce passé que j'avais qui était là comme une trace mais qui n'avait pas été réactivé du tout. Et c'est quelque chose qui m'a fait comprendre aussi à quoi nous servent nos morts, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, en quoi les morts ont besoin des vivants. En fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a le pouvoir de les réactiver ou non. Et donc, dans cette immense charge source qu'est ce large passé-là qu'on a derrière soi, on a, par nos actes et parce qu'on choisit d'éclairer, le pouvoir de rééclairer et de réactiver des fragments de ce passé qui, sans nous, sont en potentiel seulement. Et donc, on peut réactiver des choses, et ça m'a fait... Je saute de récit en récit, mais parce que c'est comme ça aussi que, je pense, des funérailles fonctionnent. Ça m'a fait réactiver un truc, c'est que j'ai toujours vu mon père, qui est chanteur, qui s'appelle Gérard Delahaye, chanter pendant les funérailles. Et je l'ai toujours trouvé assez puissant dans ces contextes-là. Il chante toujours la même chanson, qui s'appelle « Si mon bien-aimé s'en venait ». Et j'avais jamais considéré cette partie de sa pratique comme faisant partie de son métier, puisque lui n'avait jamais considéré cette partie de sa pratique comme faisant partie de son métier. Pour lui, c'était être un humain dans la communauté des humains à ce moment-là, quoi. Avec son savoir-faire. Et au moment où moi j'ai commencé à réfléchir sur les funérailles, je me suis rendu compte que j'avais cet héritage-là à ma disposition, quoi. Et c'était plus que juste une chanson, c'était l'état de son corps quand il chante, comment c'est reçu, la texture du silence qui accompagne ces moments-là. Comment moi je le trouve à ce moment-là particulièrement d'aplomb. Pourquoi ?
Si mon bien-aimé s'emmenait, si mon ami marchait vers moi, de par son pas, je le saurais. Démarche me le dirait à la distance d'une verste, même si deux nous séparaient. Vite en vapeur je volerais, en volute m'évaderais, ma bouche à ses baisers offerte. En flamèche je fuserais, en jet de flamme jaillirais, ma bouche à ses baisers. Sa bouche est faite de bon pain, sa lèvre a l'arôme du miel, sa lèvre a l'arôme du miel. Oh, sa bouche, je la baiserai. Fut-elle au-delà de la mort, fut-elle au-delà de la mort. Vite en vapeur je volerai, en volute m'évaderai, ma bouche à ses baisers offerte. En flamèche je fuserai, en jet de flamme jaillirai, ma bouche à ses baisers offerte.
Merci. C'est une chanson que vous avez du coup aussi jouée pendant des funérailles.
Moi, je ne l'ai pas jouée encore, celle-là, pendant des funérailles. Mais par contre, c'est cette chanson-là, je peux en dire quelques mots. En tout cas, que j'ai commencé ma réflexion sur qu'est-ce qu'on pourrait chanter, pourquoi, qu'est-ce que ça représente et tout ça. En fait, c'est un poème de Finlande qui date du 9e siècle et qui a été traduit en français, qui a été compilé au 19e siècle dans un recueil qui s'appelle la Kantele, qui est un recueil de, on pourrait dire, de chants, de contes folkloriques de Finlande, et qui a été traduit au XXe siècle par Jean-Luc Moreau et adapté dans les années 80 par mon père, Gérard Delay. C'est-à-dire qu'il a pris certains morceaux du poème, il a créé cette espèce de refrain. Et je me suis toujours demandé, mais pourquoi celle-là ? Pourquoi ? Parce qu'elle est, à la fois elle évoque la mort, en même temps elle n'est pas frontale du tout. En même temps, elle fait partie de la grande tradition dans les poésies mystiques où on parle d'une réunion avec soit l'être aimé, soit Dieu, etc. Donc elle s'inscrit dans une espèce de chaîne, mais sans en dépendre complètement. On dit qu'elle a peut-être subi, c'est un texte qui a peut-être subi l'influence du Cantique des Cantiques, mais au IXe siècle, c'était le tout début de l'influence du christianisme en Finlande. Donc c'est la chanson, elle a plein de récits comme ça, en son cœur, quoi. Et puis, dans le collectif, il y a une femme qui s'appelle Estelle Amie de la Bretèque, qui est ethnomusicologue et qui est spécialisée dans les lamentations funéraires. Et elle, quand je lui ai fait écouter la chanson, elle m'a analysé la chanson d'un point de vue ethnomusicologique. Et elle a dit, c'est marrant parce qu'elle, cette chanson, en fait, elle compile plusieurs constantes qu'on trouve dans les lamentations, quelle que soit presque la culture. Des notes bouche fermée, des plaintes. Qu'est-ce qu'elle m'a dit ? Des lignes mélodiques descendantes, un pronom personnel indéfini qui permet à chacun de s'identifier. Des choses comme ça. Et quand j'ai demandé à mon père, il l'a choisi de manière plus intuitive que ça. Et je lui ai demandé à mon père, est-ce qu'on t'a déjà, à l'issue d'une cérémonie, demandé, mais pourquoi celle-là ? Jamais. Donc ça veut dire que tout le monde, tous les gens qui ont entendu cette chanson, l'ont admise comme ayant un sens à ce moment-là, qui n'est pas le sens de « c'est lié au défunt », qui est un autre registre, en fait. Donc j'aime beaucoup cette petite enquête que ça mène sur quelle place peuvent avoir ces chansons, et qui durent 3 ou 4 minutes dans une cérémonie, mais qui peuvent avoir un grand pouvoir, quoi.
Et est-ce que vous avez trouvé votre musique, celle qui vous appartient, ou en tout cas celle qui vous raconte et avec laquelle vous racontez vos histoires ?
Pour les cérémonies ?
Pour les cérémonies.
Il n'y en a pas une en particulier. Il y a une chanson avec laquelle j'ai lié un rapport très intime, c'est Le Temps des cerises. En fait, c'est une chanson que j'explore dans deux registres tout à fait différents, et il y a un jour où je me suis retrouvé à la chanter deux fois, en début d'après-midi au Père Lachaise et le soir dans un théâtre, dans les deux contextes. En fait, c'est une chanson d'amour, d'un amour passé, ça a été écrit 2 ans avant la Commune de Paris, par Jean-Baptiste Clément. Et le dernier jour de la Commune de Paris, l'auteur a assisté au sauvetage d'un homme sur la dernière barricade de la Commune par une infirmière qui s'appelait Louise, qu'il n'a jamais revue. Mais il était tellement bouleversé par le fait qu'elle ait risqué sa vie pour sauver un homme au moment où la cause était perdue, qu'il a dit « Le temps des cerises est dédié à Louise ». Et après coup, elle est devenue l'hymne de la Commune de Paris. Donc tout ça, c'est des passés qui se réécrivent après coup. Donc les gens la connaissent soit comme chanson d'amour, soit comme chanson de la Commune de Paris. Et moi, je la chante pour les Kurdes, parce que j'ai un lien avec le Kurdistan très fort depuis une dizaine d'années. Et pour le geste révolutionnaire qu'il et elle portent, notamment dans le nord de la Syrie. Donc je la chante dans ce contexte-là, parce que j'ai appris beaucoup sur la Commune de Paris au Rojava, dans le nord de la Syrie. Et je trouve que c'est une chanson qui est très puissante aussi dans le contexte funéraire. Parce qu'en gros, c'est une chanson, Le Temps des Cerises, qui dit... qui dit son attachement à la douleur, qui dit « oui, je ne veux pas que la douleur me quitte parce qu'elle est la preuve qu'un amour a été vécu ». Je le traduis à ma manière, c'est dit différemment dans la chanson, mais c'est ce que moi j'y vois en tout cas, quoi. Et donc, c'est une manière d'accepter la douleur comme une preuve d'un passé et peut-être même sa reconvocation. J'ai entendu l'autre jour Vinciane Després qui disait « mais j'ai l'impression que le chagrin est une formidable technologie de réminiscence. » Et je trouve que c'est un peu ce que dit la chanson.
Vous parliez de Dakar, de Kurdistan. Vous voyagez beaucoup. Est-ce que c'est dans d'autres cultures que vous allez piocher aussi d'autres expériences ?
Chaque histoire est singulière. Le Kurdistan, c'est une histoire qui pour moi date de 2012. J'étais allé poursuivre un ami. C'était une forme de tourisme que je faisais. Et puis là-bas, j'ai été témoin des exactions de l'armée turque sur les civils kurdes. Et donc, j'ai été emporté dans tout un tourbillon de questionnements d'engagements qui sont liés à la lutte de libération des Kurdes. Donc ça, c'était très particulier parce que je me suis retrouvé emporté dans quelque chose sans du tout l'avoir ni prémédité, ni cherché. Dakar, j'ai été... parce que j'ai beaucoup d'admiration pour le économiste, philosophe, poète, musicien Felwine Sarr. Et je l'écoute et je le lis depuis longtemps. Et il organise tous les 2 ans les Ateliers de la Pensée, qui est une réunion d'artistes, de penseurs, d'universitaires, de militants, de plein de gens qu'on fait, dont on croise les propos. Et j'avais, moi, j'avais vraiment envie d'aller là-bas pour entendre, parce qu'il m'a semblé que c'était un foyer de pensée très puissant. Et ça a été pour moi un moment très fondateur, quoi. Ça a renouvelé ou déplacé ou étiré ma manière de penser, de voir le monde. J'y ai découvert plein de nouvelles pensées que je ne connaissais pas, donc depuis que j'essaye d'appréhender. Et il se trouve que le fruit direct des ateliers de la pensée à Dakar, c'est pour moi tout ce qui m'a amené dans le monde funéraire aujourd'hui. Pourquoi on en arrive aujourd'hui à avoir des funérailles que les professionnels appellent délicieusement recueillement et musique douce, où les familles sont totalement dépossédées de leur rituel, et où on assoit les gens sur des chaises, on leur fait voir un petit film avec des images de nature, et puis on leur fait écouter une musique libre de droit pendant 30 minutes et c'est fini. Et ça, je le vois au Père Lachaise et dans différents crématoriums. Et je pense, parfois je me demande s'il existe un rituel funéraire aussi pauvre et violent que le nôtre, quand il n'est pas investi. Mais tout est fait pour qu'on ne l'investisse pas, quoi. Et donc, d'où ça vient cette histoire? Pourquoi c'est si cher? Pourquoi ces dépenses ne sont pas prises en charge par la communauté? Il y a plein de questions qui s'agrègent à cet endroit-là. Et donc, c'est un endroit, les funérailles, depuis lequel on peut penser plein de choses différentes.
Dans la présentation, au début de l'émission, je vous ai présenté comme musicien, officiant funéraire, mais aussi comme auteur. Et vous avez déjà écrit et publié plusieurs ouvrages, des pièces de théâtre et des romans. On peut citer le dernier en date, L'homme tempéré. Et vous êtes sur deux nouveaux projets d'écriture autour de la mort. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus aujourd'hui?
Il y en a un qui est en route. L'autre est encore très, très embryonnaire, donc je ne vais pas encore en parler. Mais le premier que je suis en train d'écrire, c'est une manière pour moi d'essayer de mettre en ordre et puis d'étirer encore les deux premières années de réflexion que j'ai sur ce moment funéraire en France et sur la place de la musique là-dedans. C'est un peu ça. Mais je le raconte pas de manière théorique. Je parle de ma belle-mère qui est décédée il y a presque un an. Et il se trouve que on a appris son cancer le premier jour de ma formation de maître de cérémonie. Et ses funérailles ont eu lieu le dernier jour de mon stage, puisque la formation de maître de cérémonie, c'est une formation théorique de 15 jours, puis un stage en pompe funèbre d'un mois. Et donc, ces deux histoires, pour moi, sont absolument concomitantes. Et donc, j'essaye de raconter tout ce qui s'est agencé autour de cette... de ce lien, moi, que j'avais avec elle, de ce que notre famille avait avec elle. Et notamment autour du fait que Min Lee, c'est son prénom, était une femme catholique très pratiquante, qui faisait partie de la communauté de l'Emmanuel. Et sa fille, ma compagne, et moi, on est athées. Et donc, comment on fait un rituel funéraire ensemble? Comment on arrive à faire un rituel funéraire laïque au sens exigeant du terme, c'est-à-dire qui n'est pas un nivellement par le bas, un arasement, mais qui est la plénitude de toutes les manières d'habiter la séparation, quoi. Et donc cette cérémonie, ou ces cérémonies, elles ont incarné un peu cette diplomatie de spirituelle. Et donc j'essaye de réfléchir un petit peu dans le livre à aussi cet héritage chrétien que je n'ai pas reçu, et de quoi moi, en tant qu'athée aujourd'hui, j'ai envie d'hériter de l'héritage chrétien. Comment moi je peux m'approprier à cet héritage sans avoir le choix entre cette alternative infernale qui est la table rase ou la totale, et dire non, ça a constitué nos manières de sentir, d'éprouver, de penser, de croire, d'espérer pendant deux millénaires. Donc évidemment, il y a mille et un aspects qui se sont sécularisés et dont on n'a même pas conscience aujourd'hui qu'ils sont des héritages chrétiens. Et donc j'ai envie, moi, aujourd'hui, de me retourner vers cet héritage et de voir ce que moi j'ai envie de faire avec ça. Puisqu'il y a cette question-là qui se pose quand on perd quelqu'un, c'est comment on en hérite. On n'est pas obligé de tout prendre, on n'est pas obligé de tout laisser. on n'est pas obligé de prendre les choses telles quelles. On peut les déplacer, les contaminer, les recréer, les remettre au présent. On a ces choix-là. Mais ça demande du travail de vider une maison ou de simplement habiter une maison pleine. Et j'ai envie d'adapter ce questionnement-là à cette vaste et profonde question dont je ne pourrais évidemment que aborder un petit lambeau, mais c'est déjà un pas en avant pour moi.
Et vous allez aussi poursuivre votre réflexion sur un autre champ, puisque vous intégrez le collectif Grand Dehors avec Marine Lanaro sur le projet Métamortem. Marine était venue nous en parler dans un épisode précédent. Et vous avez avancé, depuis que l'on s'est vu avec Marine, vous avez avancé sur ce projet de spectacle, de cérémonie, Métamortem. Où est votre place justement dans ce projet artistique ?
En fait, ma place, elle vient du lien qu'on a avec Marine, qui est qu'on s'est motivés tous les deux. Elle est metteuse en scène. Moi, j'étais metteur en scène, je peux dire. Et en fait, on s'est retrouvés au Festival d'Avignon. On s'était croisés comme ça dans des événements, des stages théâtraux. Mais au Festival d'Avignon, et on s'est retrouvés qu'on avait en commun un projet lié au funéraire. Moi, c'était le collectif Chant Funérailles. Et elle avait cette envie de spectacle, de création en espace public. Et elle m'a dit, mais je vais faire la formation de maître de cérémonie. Et donc, c'est à elle que je dois ça, le fait d'avoir fait cette formation, puisque j'y avais pensé, mais pas sérieusement. Et le fait qu'elle me dise, mais moi, je vais le faire, je me suis dit, bah, faisons-le à deux, ça va être plus marrant, quoi. Et ça a été plus marrant à deux, je précise. Et du coup, on partage à la fois une réflexion sur une mise en forme théâtrale de pensée, d'émotion. Sauf qu'elle, elle est vraiment dans une pensée en espace public, qui est spécifique. Moi, j'étais plutôt sur du théâtre de salle. Et une réflexion autour du funéraire. On a en commun aussi un lien avec la coopérative funéraire de Rennes, où elle a fait son stage, où moi, j'ai travaillé un petit peu en remplacement. Donc, ça nous fait beaucoup de points de contact qui font que, dans la discussion autour d'une création en gestation, on se comprend assez vite, quoi. Donc, ma place là-dedans, c'est plutôt je suis sparring partner de ses idées, quoi. C'est-à-dire que Marine est quelqu'un qui a énormément d'idées. Et là-dedans, il faut les agencer, les articuler et puis les trier parfois. Et donc, je suis celui qui l'écoute, fait la moue, surenchérit, me laisse inspirer et enthousiasmer par certaines. Et puis, on avance comme ça. Donc, je pense que ma place, elle est à cet endroit-là. C'est vraiment... c'est une place un peu à la marge, en fait, du collectif. Mais qui est intéressante de ce fait, c'est qu'on sait tous les deux ce que c'est une cérémonie funéraire pour de vrai. Et donc, comme elle a l'ambition d'essayer de trouver une forme de proposition fictionnelle qui intègre des éléments de commémoration collective au premier degré, et que les gens vivent vraiment une ritualité, c'est-à-dire un moment, on pourrait dire, de passage avec qui concilie les temps, peut-être. Au sein de cette création, on essaye de trouver quels outils on emploie en tant que maître de cérémonie et qui pourraient être réinvestis d'une manière adaptée à cette création, quoi.
Ellie, on va terminer tranquillement cet épisode. Est-ce que, au vu de tout ce qui a été dit, est-ce que vous avez là un chant que vous aimeriez justement amener dans cette énergie dans laquelle vous êtes là actuellement?
Mais en fait, je pense à un chant qui a été tourné l'été dernier, qui est chanté par Chloé Breillot et Jean-Jacques Fautou, accompagné par Nechet Koutas. C'est un chant cubain d'Ibrahim Ferrer. En tout cas, moi, je le connais par Ibrahim Ferrer, qui s'appelle Silencio, et qui dit, je ne veux pas montrer ma peine aux fleurs, parce que si elles me voyaient pleurer, elles mourraient. Et c'est un chant qui me touche parce qu'il m'a été chanté par cet ami qui a perdu son père il n'y a pas longtemps, Thomas. Un jour où moi j'étais très malade, j'ai eu une infection du foie et je me suis retrouvé à Pontchaillou. J'étais très très faible. Et c'est le moment où moi, dans ma vie, je suis passé le plus proche d'une expérience de la mort. Mais je ne le savais pas à ce moment-là. Le premier jour, il est venu et il m'a chanté cette chanson au chevet de mon lit. Je pouvais à peine bouger. Et il me l'a chanté extrêmement doucement. Je pense que je n'ai jamais vu quelqu'un, entendu quelqu'un chanter si doucement. Et je ne comprenais pas le sens des paroles. Et je l'ai découvert que par le collectif, 10 ans plus tard, 12 ans plus tard. Voilà, donc c'est en remerciement pour ce moment-là à Thomas, et aussi pour partager la manière dont Chloé, Jean-Jacques et Nechette ont de faire de la musique ensemble, et qui me plaît beaucoup.
Estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, que están durmiendo los Azucenas. No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, morirán.
Silencio.
Que están durmiendo
los nardos y las azucenas.
No quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando, ven llorando, morirán. Porque si me ven llorando, morirán.
Un grand merci Élie pour ce temps passé ensemble.
Merci Lucille.
Retrouvez les actualités d'Élie Guilloux sur son site elieguilloux.fr ou consultez le répertoire du collectif Chant Funérailles, chantfunérailles.com. Je suis Lucille Milliard, la réalisatrice. Merci à Mathilde Cuchet pour l'illustration et merci à Florian Kuhn pour l'habillage sonore. Retrouvez cet épisode sur Canal B et sur toutes les plateformes de podcast.